Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Dans les années 30, quel était, selon les invités de l'émission qui suit, quel était le personnage de trop ? Entendons le personnage de trop dans la littérature policière. Le détective. Les théories sur le roman policier, roman avec ou sans policier, cela dit, c'était bien beau, bien gentil, mais passer à la pratique, écrire les romans que l'on aimerait lire, c'était beaucoup mieux. Leur lecture d'enfance, leur début dans l'écriture, leur rencontre, Pierre Boileau et Thomas Narcejac étaient les invités de José Pivin le 23 juin 1962 sur France 2 régionale.
Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée. Une émission réalisée et imaginée par José Pivin, qui présente aujourd'hui Pierre Boileau et Thomas Narcejac. Des extraits des romans de Pierre Boileau et Thomas Narcejac, Les Magiciennes, Sueur froide, Les Visages de l'ombre, Maldon, seront interprétés par Caroline Alexandre, Michel Gérard, Michel Bouquet, Ivar Canel, Jacques Bretonnière, Maurice Junio, Georges Peyrou, Olivier Richard, Richard Pau, René Clermont et Clément Béram. Prise de son Robert Lavoignat, assistante de production Yvonne Taquet.
Au cours de cette émission consacrée à Pierre Boileau et Thomas Narcejac, nous verrons deux hommes trouver dans les mystères imprécis de leur enfance le chemin qui mène aux grands mystères dans lesquels se perdent les raisonnements des adultes. Pierre Boileau et Thomas Narcejac, vous qui avez écrit ces romans que je ne voudrais pas appeler policiers parce qu'ils dépassent les préoccupations des enquêtes banales, voudriez-vous nous parler de ces premiers contacts que vous avez eus avec les problèmes de l'inconnu et par conséquent de votre enfance ? Pierre Boileau, puisque c'est votre nom qui est le premier de votre signature commune avec Thomas Narcejac, voudriez-vous nous parler d'abord des premières années de votre jeunesse ?
Je suis né à Paris, et je ne peux pas dire que je n'ai jamais quitté Paris, parce que heureusement, je vais de temps en temps en vacances ou en voyage à la campagne, à la mer ou à l'étranger. Enfin, je peux dire que toute ma vie s'est déroulée dans Paris. Je suis né rue de Dunkerque, vous savez, juste tout en bas de la butte. Cette enfance s'est située pendant la guerre de 14-18, c'est-à-dire... J'ose pas dire à une époque qui était bénie pour les gosses, mais presque, les pères n'étaient partis. Il n'y avait pas beaucoup de professeurs, il y avait, la surveillance maternelle était réduite au minimum. Et il est certain que pour les enfants, c'était une époque extraordinaire, puisqu'on était presque des adultes à 8 ans et qu'on faisait ce qu'on voulait. La butte Montmartre, en plus, permettait tous les exploits de l'époque, qui étaient un peu ceux des Peaux-Rouges et déjà un petit peu ceux des policiers. Et je crois que mon enfance m'a marqué d'une manière extrêmement, extrêmement forte, non pas seulement sur le plan du jeu, mais très vite aussi sur le plan des lectures. Tout enfant, j'ai lu les journaux illustrés de l'époque. On lisait les Patents, le Petit Illustré, le Cri-Cri. Et aussitôt après, les aventures de Buffalo Bill et de Nick Carter, auxquels ont succédé, et alors ça, c'était la grande découverte de mon enfance, je crois que c'était celle de Narcejac aussi, Arsène Lupin, Rouletabille, Fantomas, et d'autre part, la découverte du cinéma des films à épisodes. On jouait Judex, on jouait Les Mystères de New York, et il est certain que pour des enfants de 8 ou 10 ans, c'était une espèce de découverte extraordinaire, et je me demande si dans une certaine mesure, ce ne sont pas ces impressions d'enfance que j'ai essayé de conserver ou tout au moins de retrouver en écrivant beaucoup plus tard des romans d'aventure ou de manière plus précise des romans policiers. À un âge un petit peu plus élevé, il y a eu la découverte d'Edgar Poe ou des auteurs de romans d'histoire de fantômes, de maisons hantées. Et cette influence d'une part du roman policier et d'autre part du roman fantastique m'a, je crois, conduit petit à petit à cette conception des romans que nous avons essayé de mettre au point Narcejac et moi et qui concilie en somme ces deux tendances, celle du roman de mystère et celle du roman fantastique.
Et en dehors des aventures de la rue, comment viviez-vous à cette époque ?
Ah ben je vivais dans ma famille, avec un frère aîné qui avait 3 ans de plus que moi, qui au début me lisait ses histoires quand je ne savais pas lire moi-même, c'est-à-dire les petits illustrés quand j'avais 4 ou 5 ans. Et après, mon Dieu, nous avions à peu près les mêmes lectures. Nous courions ensemble, car nous avions très peu d'argent, les brocanteurs de Montmartre, où on achetait pour quelques sous ces ouvrages dont je vous parle.
Pierre Boileau oublie de vous dire qu'il a une admirable collection d'illustrés de cette époque, dans un état de fraîcheur d'ailleurs étonnant. Et quelquefois, nous nous replongeons comme des gosses dans la lecture de ces illustrés qui ont des couvertures extraordinaires. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens à l'heure actuelle qui possèdent beaucoup de collections complètes illustrées de l'époque.
Vous avez eu une enfance un peu semblable, Thomas Narcejac ?
Oui et non. Moi, mon enfance a été surtout marquée par le milieu familial. Mon père, mon grand-père étaient des marins. Alors moi, tout petit, c'était plutôt des objets exotiques qui m'entouraient, qui me donnaient un petit peu à rêver. Et j'avais l'intention très ferme de naviguer à mon tour. J'en étais empêché malheureusement par un accident. Mais je crois que cette espèce d'appel de l'aventure s'est resté au fond de moi. C'est quand même quelque chose qui n'a jamais été pleinement satisfait. Comme j'étais élevé au bord de la mer, à Rochefort-sur-Mer en particulier, que la mer faisait partie de mon panorama, sinon quotidien, mais enfin du moins très habituel. Bien entendu, l'imagination d'un enfant à cet âge-là subit fortement ses influences, vous le pensez bien. Alors, je me suis rejeté, dès que je l'ai pu, vers les romans d'aventure. Et comme nous avons à peu près le même âge, nous avons forcément lu les mêmes choses. C'est-à-dire que quand Pierre commençait à lire Arsène Lupin ou Fantomas, moi je devais commencer à lire Sherlock Holmes. Et on en éprouvait évidemment le même choc. Il est certain que des enfants qui découvrent aujourd'hui Arsène Lupin ne voient pas du tout la même chose que nous, au même âge. Ben après, ça a été la guerre. Et comme mon père forcément était mobilisé très loin, puisqu'il était marin, n'est-ce pas, j'ai été moi-même abandonné aux soins d'une vieille grand-mère que je terrorisais, bien entendu, et qui me laissait un peu la bride sur le cou. Alors, imaginez un gamin, dans une période comme celle-là, dans un port, où arrivaient des bateaux camouflés, où couraient des bruits de naufrage, de torpillage, où se promenaient des uniformes de partout, où il y avait des Noirs, il y avait des Hindous, il y avait des Américains, il y avait des convois de camions, n'est-ce pas ? Il y avait un camp d'aviation tout à côté. Alors, en plus, on lisait des choses qui nous poussaient encore dans cette espèce de dévergondage de l'imagination, mais il est évident que ça marque. Moi, j'étais fils unique, enfin, j'ai eu une sœur beaucoup plus tard, enfin, j'étais élevé alors dans une espèce de solitude, qui était une solitude extraordinairement peuplée de lectures. Et je crois que là, vraiment, pendant 5 ou 6 ans, j'étais en proie à des influences qui durent encore.
Au fond, ce que vous décriviez, c'était peut-être plus les possibilités de l'imagination que l'aventure même.
Oui, d'abord, dans nos jeux, nous reconstituions souvent les histoires que nous avions lues, ou nous en inventions. Ouais. Je me rappelle, par exemple, que dans la rue, on s'amusait à suivre des inconnus, barbus de préférence, qui nous donnaient l'impression qu'ils étaient déguisés. Il est certain qu'au bout d'un certain temps, nous arrivions à nous persuader que ces types-là étaient des criminels. Et je sais qu'également, très jeune, enfin, j'avais peut-être une douzaine d'années, je m'amusais, à raconter des histoires de brigands comme ça aux camarades de classe.
Pour moi, non, je n'étais pas du tout comme Pierre à ce point de vue-là. Je n'avais aucune tendance à inventer quelque chose de nouveau sur ces thèmes. Je les absorbais avec avidité. Et je dois dire qu'alors, quand par hasard ces lectures venaient à me manquer, j'en éprouvais la privation d'une façon très dure. C'était un peu une drogue par conséquent.
Et sur cette enfance de classe et de cours de récréation, à laquelle manque quelquefois même cette drogue dont vous venez de parler, vous avez écrit le début d'un de vos romans, Les Magiciennes. Il s'agit d'un jeune garçon, fils de prestidigitateur, qui, dans l'avion qui le mène vers cette ville lointaine où son père vient de mourir, se rappelle les années de pension qui viennent de se terminer. Voici le début de ce roman.
C'était un cauchemar qui n'en finissait plus. Il avait commencé à Versailles, dans le parloir des jésuites autrefois, des années et des années auparavant. D'autres se revoyaient tout gosse, assis sur une chaise, son béret sur ses genoux, tandis que son père discutait à voix basse avec un religieux. Et puis un autre prêtre était venu, lui avait pris la main. Des escaliers, des couloirs, un petit lit, l'armoire minuscule où son linge était rangé. Tout ce qu'il possédait portait désormais le numéro 4. Pendant 12 ans, il avait été le numéro 4. 12 ans pensionnaire. Cela représentait une vertigineuse quantité de jours. Un morne abîme d'images toutes semblables, qu'il aurait tellement voulu oublier. Malheureux? Non. Il n'avait manqué de rien. Tout le monde s'occupait de lui. Les religieux l'aimaient bien, à leur manière. On savait que le petit Doutre n'était pas comme les autres. Doutre regarda la nuit, écouta le grondement régulier des moteurs. Il s'éloignait de la France à toute vitesse. Il flottait entre le passé et l'avenir. Il était capable, soudain, d'embrasser toute sa vie d'un coup d'œil. Et il voyait le petit Doutre là-bas, tout en bas, comme on dit que Dieu voit les hommes. Drôle de garçon, gauche, maigre, timide, distrait, dont personne ne connaissait la vie secrète, pas même son confesseur. Indifférent à tout, en apparence, et pourtant plein de bonne volonté, exactement comme un automate bien réglé. Le premier à la chapelle, le premier en études, le premier au réfectoire. Souvent, le supérieur l'interrogeait.
Voyons, Doutre, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi faites-vous exprès de ne pas travailler? Vous êtes aussi intelligent qu'un autre, alors? Croyez-vous que vos parents seront satisfaits quand ils recevront ce bulletin?
Mais le supérieur n'insistait pas, car les parents du petit Doutre n'étaient pas non plus comme les autres. Les mains de Doutre étaient moites. Il toucha le hublot pour sentir sa fraîcheur et laissa sur la vitre une étoile de buée qui mit longtemps à s'effacer. Il se rappelait la scène. Il pouvait s'évader de cet avion lancé en pleine nuit au-dessus d'un pays inconnu et se transporter dans la cour de récréation. Tout cela vivait encore en lui avec une intensité effrayante. Le surveillant distribuait le courrier.
Pierre Doutre.
Un camarade avait pris la carte postale pour la lui donner, mais au passage, il l'avait regardée et s'était mis à rire.
Hé, hey, les gars!
Un peu plus tard, à 5 ou 6, il l'avait bloqué dans un coin du préau.
Fais voir cette carte.
Il était chétif, il n'avait pas 10 ans alors, il avait obéi. Et les copains avaient contemplé en silence. La carte représentait un homme en habit. De la main gauche, il tenait un chapeau de forme renversée et de la droite, un jeu de cartes. Il souriait d'un air vainqueur. Au bas de la carte, il y avait 3 mots en lettres blanches. Le professeur Alberto.
C'est ton père. C'est marrant, un père comme ça. Et ta mère, est-ce qu'elle fait du trapèze?
Ils avaient ri à en perdre le souffle, tandis qu'il retenait ses larmes. La récréation s'était achevée, le petit Doutre avait été malade 3 jours. Quand il était revenu, les camarades avaient évité toute allusion au professeur Alberto. On sentait qu'ils étaient obligés d'observer une consigne. Mais les clins d'œil volaient. Et quand une lettre ou une carte arrivait, des toussotements, des raclements de gorge pleins de sous-entendus s'élevaient un peu partout. Et puis un beau jour, quelqu'un eut l'idée de le surnommer Fantomas. Un cahier venait-il à disparaître? C'est Fantomas. Il fit semblant de rire. Mais pendant plus d'un trimestre, il déchira sans les lire les cartes et les lettres qui lui parvenaient de villes aux noms bizarres. Norrköping, Lugano, Albacete. Et le matin, à la messe, le soir, pendant la prière, il songeait à ses parents lointains qui multipliaient les miracles dérisoires avec un chapeau de forme. Ce père impossible qui passait 2 ou 3 fois par an et le comblait le cadeau. Et ensuite les longues attentes, pleines de méfiance, de hargne, d'admiration et de tendresse refoulée. Doutre laissait alors son imagination vagabonder. Il contemplait en cachette les cartes aux timbres rares qui représentaient parfois des casinos, des théâtres. Relisait certaines phrases qui le plongeaient dans une sorte d'engourdissement. La représentation a été un triomphe. Ou bien, je viens de signer un contrat inespéré. Et quand son père revenait, il n'osait plus lui parler, restait hostile, crispé. Il avait peur. Ces rencontres au parloir. Comment oublier que cet homme mince, élégant et triste était le professeur Alberto? Est-ce qu'il faisait lui aussi un boniment? Est-ce qu'il avait des poches à double fond? Est-ce qu'il savait deviner les pensées?
Pourquoi rougis-tu, mon petit Pierre?
Mais je ne rougis pas.
Cramoisi, Doutre observait son père, étudiait ses mains pâles, fines, aux ongles polis et brillants comme des chatons de bague. Il se sentait d'une race inférieure, avait honte de sa gaucherie, souhaitait de rester seul comme un orphelin, et pourtant surveillait l'horloge avec désespoir. Est-ce qu'il m'aime, pensait-il? Et elle? Quand la visite tirait à sa fin, il lui arrivait de poser la question qu'il retenait depuis si longtemps.
Est-ce que maman viendra?
Bien sûr. Elle est un peu fatiguée en ce moment. Mais la prochaine fois...
Jamais Doutre n'avait revu sa mère. Jamais il n'avait laissé passer un jour sans regarder la photographie où elle apparaissait en costume de scène, plus scintillante de pierreries que la Vierge de la Chapelle, et souriant de biais derrière un éventail. Elle était belle. Pourquoi son père semblait-il gêné quand Pierre demandait des nouvelles de sa mère? Il tournait la tête, montrait sa valise.
Tu sais ce que je t'apporte?
Il offrait une montre, un stylo, un portefeuille. Mais la montre était une Omega, le stylo un Waterman plaqué or. Et le portefeuille contenait une liasse de billets de 1000. D'autres se rapprochaient timidement, tendaient les bras. Un instant, il appuyait son visage sur la poitrine de son père. Ses mains s'accrochaient à l'homme qui allait repartir. Il étouffait un sanglot.
Allons, mon petit Pierre, tu n'es pas perdu?
Non, papa.
Tu sais que nous allons nous installer à Paris bientôt?
Oui, papa.
Alors, dans un mois, je reviendrai. Travaille bien pour nous faire plaisir.
L'horloge sonnait. D'autres marchaient dans un rêve jusqu'à la porte. Les derniers gestes de son père se gravaient dans sa mémoire, le mouvement des mains lissant les bords roulés du feutre gris, la chiquenaude chassant une poussière sur la manche du par-dessus. C'était fini. La silhouette s'éclairait une seconde là-bas, devant la conciergerie. D'autres retombaient dans sa nuit. Les semaines, les mois coulaient. Pendant ce temps, les Alberto poursuivaient au-delà des montagnes et des mers leur tournée sans fin.
Et peut-on vous demander, Pierre Boileau, ce que vous avez fait après cette période d'enfance?
J'ai fait mes études dans une école commerciale, c'est-à-dire pour avoir une orientation comptable ou enfin d'ordre un peu mathématique. Et je dois dire que je m'y ennuyais évidemment profondément. Pour moi, c'était quelque chose de desséchant et presque d'insoutenable. Et enfin, dès que je l'ai pu, j'ai laissé tomber cette école. Et comme il fallait, enfin, évidemment, que je gagne ma vie comme tout le monde, j'ai commencé à travailler. Et j'ai exercé des métiers, évidemment, d'autant plus divers qu'aucun ne me plaisait beaucoup. Enfin, chacun était vraiment le pain à somme qui consistait à gagner sa vie, et c'est tout. Parmi ces métiers, j'en ai exercé tout de même deux qui étaient assez amusants. J'avais une cousine qui avait monté une boîte de nuit aux Champs-Élysées et pendant quelques mois, j'ai assuré une espèce de secrétariat de cette boîte de nuit. Enfin, pour quelqu'un de jeune, c'était évidemment assez amusant, assez exaltant, parce qu'il y avait une clientèle qui, bien entendu, était très pittoresque. Malheureusement, cette clientèle était peu nombreuse et la boîte de nuit a fait faillite. Et l'autre métier que j'ai exercé pas mal d'années plus tard, j'ai appartenu à un service social qui était chargé de venir en aide aux détenus de droit commun. Ça m'a permis de visiter tout de même beaucoup d'établissements pénitentiaires et d'y rencontrer des personnages évidemment assez particulièrement curieux, des assassins notamment.
Et quelle impression vous faisait justement de rencontre de ces hommes?
Sans leur légende, je crois qu'ils ne m'auraient fait aucune impression. J'aurais rencontré Petiot ou un autre dans le métro, évidemment, je n'aurais pas du tout pensé à le dévisager particulièrement. Mais enfin, sachant ce qu'ils avaient commis, ils revêtaient aussitôt un aspect, on avait tendance à leur trouver des expressions ou des regards absolument extraordinaires, mais enfin je crois qu'au fond ils étaient physiquement à peu près des hommes comme tout le monde.
Et vous ne pensiez pas à écrire à ce moment-là?
Ah si, quand j'ai commencé de travailler, évidemment je pensais déjà à écrire, mais n'ayant pas beaucoup de loisirs, enfin j'avais ceux qui sont les loisirs de tous les salariés, j'écrivais un peu après le dîner, et puis le samedi et le dimanche qui étaient mes jours de congé. J'écrivais à l'époque des nouvelles et des contes, et c'est comme ça que j'ai débuté. Et puis alors après, ayant un peu plus de loisirs, j'ai commencé à écrire des romans. Et puis, j'ai eu la chance qu'un de ses romans remporte le prix du masque en 1938. Et à ce moment-là, ça m'a permis de lâcher toute autre profession et de me consacrer au roman policier. Malheureusement, cette activité n'a duré qu'une année, puisque en 1939, il y a eu des événements fâcheux qui ont m'obligé à interrompre. Puis c'était la guerre, la captivité, qui évidemment a mis un terme à cette première partie de mon activité. Après, j'ai recommencé d'écrire, mais il a fallu également gagner ma vie. Donc j'ai recommencé à ce moment-là de retravailler. Et puis, j'ai dû publier également deux ou trois romans chez Fayard. J'ai interrompu, n'est-ce pas? De nouveau, je me suis consacré aux romans policiers, aux nouvelles ou à des articles divers. Et cette activité m'a amené en 1948, qui a été l'année de ma rencontre avec Narcejac. J'ai lu un essai de Thomas Narcejac, que je ne connaissais pas, dont j'ignorais le nom à l'époque, qui a dû paraître en 1948, je crois.
47.
Ou 47, et qui s'appelle « Esthétique du roman policier ». Et dans ce roman, j'ai trouvé beaucoup d'idées que j'avais effleurées moi-même, et également différentes solutions aux questions que je me posais. Et j'ai commencé à écrire à Narcejac pour le féliciter, pour le remercier du reste, parce qu'il avait ainsi cité mon nom incidemment dans le bouquin. Narcejac m'a répondu, il s'en est suivi un échange qui a duré enfin plusieurs mois, ou peut-être près d'une année. Mmh. Et puis alors en 1948, Narcejac a obtenu le même prix du roman d'aventure, n'est-ce pas ? Ce qui nous a fourni l'occasion de nous rencontrer au banquet offert par notre éditeur, Pigasse. Nous nous sommes revus, nous avons continué d'échanger des lettres et d'échanger des idées. Et puis un jour, Narcejac m'a dit, mais enfin, c'est bien gentil toutes ces théories, mais tout de même, si on essayait de les mettre en pratique, et si on essayait d'écrire le roman policier, enfin, que nous aimerions libre, n'est-ce pas ? Et nous nous sommes associés. L'idée de Narcejac, de reste, était également celle-ci. À deux, on peut peut-être arriver à écrire un roman policier qu'un seul auteur n'écrira jamais tout seul. Car à la vérité, et je crois que enfin, c'est une constatation que nous avons faite assez souvent, il y a des auteurs de romans policiers qui excellent dans la construction d'une intrigue, mais dans ce cas-là, il est rare que ces auteurs accordent une part suffisante à la psychologie. On pourrait dire du reste que tous les soins qu'ils apportent à la construction de l'intrigue, ils les retirent au caractère de leur personnage, n'est-ce pas ? Et que d'autre part, il y a également de très bons auteurs, qui sont peut-être des romans, surtout des romanciers tout court, qui ont essayer d'écrire des romans policiers, mais dans ce cas-là, ils ont surtout tout sacrifié au personnage, c'est-à-dire que leurs intrigues étaient faibles, et nous avons pensé qu'en se mettant à deux, en gardant chacun ses goûts ou ses qualités propres, on pourrait peut-être arriver à faire cette espèce de synthèse entre le roman policier de formule classique, c'est-à-dire avec le roman problème, et en somme, le roman tout court.
Il est certain qu'en lisant les romans que vous avez écrits avec Narcejac, il y a des moments où l'on ne pense plus du tout à l'événement, c'est-à-dire au crime ou à la découverte de l'assassin, pour ne penser qu'à une de ces synthèses dont vous parlez, où l'origine du crime est dans la vie quotidienne. Voici à ce sujet un extrait de Sueur froide, un roman de Boileau Narcejac. Un détective privé est tombé amoureux de la femme qu'il devait surveiller. Le voici se promenant dans Paris, en attendant l'heure du rendez-vous.
La foule le roulait lentement. Il se laissait porter, conduire. Il se reposait d'être un homme. Il s'arrêta devant les vitrines de Lancel. Il n'avait aucune envie d'acheter. Il aimait contempler les bijoux, l'éclat de l'or sur les velours sombres. Et soudain, il se rappela que Malène avait cassé son briquet. Des briquets, il en voyait sur un plateau de verre. Il apercevait aussi des étuis à cigarettes d'une matière précieuse. Elle ne pourrait pas s'offenser. Il entra, choisit un minuscule briquet d'or pâle, un étui en cuir de Russie. Pour une fois, la dépense lui était agréable. Il écrivit sur un carton « Eurydice ressuscité ». Introduisit le carton dans l'étui. Il lui donnerait le petit paquet au Louvre, ou bien un peu plus tard, quand il ferait la dinette, avant de se séparer. La matinée fut embellie par cet achat. Il souriait quand il sentait sous ses doigts le papier noué d'une faveur bleue. Cher, chère Madeleine. À 2 heures, il l'attendait place de l'Étoile. Elle était toujours exacte au rendez-vous.
Tiens, vous êtes en noir aujourd'hui.
J'aime beaucoup le noir. Si je m'écoutais, je ne porterais que du noir.
Pourquoi ? C'est lugubre, le noir.
Mais non, au contraire. Cela donne de l'importance à tout ce qu'on pense. On est bien obligé de se prendre au sérieux.
Alors, si vous portiez du bleu ou du vert ?
Je ne sais pas. J'aurais l'impression d'être un ruisseau ou un peuplier. Quand j'étais petite, je croyais que les couleurs possédaient un pouvoir magique. C'est pourquoi j'ai voulu peindre.
Elle lui prit le bras de ce geste plein d'abandon qui le bouleverserait de tendresse.
Moi aussi, j'ai essayé de peindre, mais je dessine mal.
Qu'est-ce que ça peut faire? C'est la couleur qui compte.
J'aimerais voir vos toiles.
Oh, elles ne valent pas grand-chose. Elles ne ressemblent à rien. Ce sont des rêves. Est-ce que vous rêvez en couleur?
Non, je ne vois que du gris, comme au cinéma.
Oh, alors vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes un aveugle.
Elle rit et lui serra le bras pour lui montrer qu'elle plaisantait.
C'est tellement plus beau que ce qu'on appelle la réalité. Imaginez, si vous le pouvez, des couleurs qui se touchent, qui se mangent, qui se boivent, qui vous pénètrent totalement. On devient semblable à ces insectes qui se confondent avec la fogue qui les supporte, et ces poissons qui ressemblent à des coraux. Chaque nuit, je rêve à l'autre pays.
Vous aussi?
Serrés l'un contre l'autre, ils contournaient la place de la Concorde sans regarder personne. À peine si Flavière gardait conscience de la direction. Il était tout à la douceur de ses confidences, et en même temps, une part de son esprit demeurait aux aguets, ne perdait pas de vue le problème.
Quand j'étais gamin, j'étais obsédé par ce pays inconnu. Je pourrais même vous montrer sur la carte où il commence.
Ce n'est pas le même.
Aussi. Le mien est plein de ténèbres, le vôtre lumineux. Mais je sais bien qu'ils se rejoignent.
Et vous n'y croyez plus?
Flavier hésita, mais elle le regardait avec une telle confiance. Elle semblait attacher tellement d'importance à sa réponse.
Si, j'y crois encore. Surtout depuis que je vous connais.
Ils continuèrent un instant leur promenade en silence. Le rythme accordé de leurs pas prolongeait en eux des pensées communes. Ils traversèrent l'immense cour, montèrent un petit escalier étroit et sombre. Bientôt, ils avancèrent dans une fraîcheur de cathédrale.
Moi, je n'y crois pas. Je sais qu'il existe. Il est aussi réel que le nôtre. Seulement, on ne doit pas le dire.
Les statues, aux grands yeux vides, aux pieds posés l'un derrière l'autre, les regardaient passer. Il y avait de loin en loin des sarcophages couleur de cellophane, des blocs de pierre ceinturés de signes indéchiffrables, et dans les profondeurs solennelles des salles vides, des têtes grimaçantes, des mufles écorchés par le temps, des bêtes accroupies, toute une faune monstrueuse et figée.
Je suis passée ici, au bras d'un homme, il y a longtemps, très longtemps. Il vous ressemblait, mais il portait des favoris.
C'est sans doute une illusion, l'illusion du déjà-vu. Elle est très fréquente.
Oh non, non, je pourrais vous donner des détails d'une précision effrayante. Tenez, je vois souvent une petite ville dont j'ignore le nom. Je ne sais même pas si elle se trouve en France. Et pourtant, je m'y promène en songe, comme si je l'avais toujours habitée. Il y a une rivière qui la traverse. Et à droite, sur la berge, j'aperçois un arc de triomphe gallo-romain. Et si l'on remonte une avenue bordée de grands platanes, on trouve à gauche des arènes, quelques voûtes et des escaliers croulants. Et au fond des arènes, je vois trois peupliers et un troupeau de moutons.
Mais je la connais, cette ville. Il s'agit de Saintes. Et la rivière, c'est la Charente.
Peut-être.
Mais les arènes ont été dégagées. Il n'y a plus de peupliers.
Il y en avait de mon temps. Et la petite fontaine existe-t-elle toujours? Les filles venaient y jeter des épingles en souhaitant de se marier dans l'année.
La fontaine Sainte-Estelle.
Et l'église, en arrière des arènes. Une haute église avec un clocher très ancien. Oh, j'ai toujours aimé ces vieilles églises.
Sainte-Trope.
Vous voyez bien.
Il longeait lentement les ruines énigmatiques, autour desquelles flottait une odeur de cire. Parfois, il croisait un visiteur attentif, docte, recueilli. Ils n'étaient préoccupés que d'eux-mêmes, tandis qu'ils voyaient défiler les lions, les sphinx et les taureaux ailés.
Comment l'appelez-vous, cette ville?
Sainte. Elle se trouve près de Royan.
Oh, j'ai dû vivre là-bas autrefois.
Autrefois, quand vous étiez toute petite.
Oh, mais non, dans mon autre existence.
Flavière ne protesta pas. Les paroles de Madeleine éveillaient en lui trop d'écho.
Où êtes-vous née?
Dans les Ardennes, tout près de la frontière. La guerre n'a jamais cessé de passer chez nous. Et vous?
Moi, j'ai été élevée chez ma grand-mère, à côté de Saumur.
Je suis fille unique. Ma mère était souvent malade. Mon père passait tout son temps à l'usine. Je n'ai pas eu une enfance très gaie.
Ils entraient dans une salle aux murs ornés de toiles, dont les cadres brillaient comme multipliés par des jeux de miroirs. Les yeux des portraits se fixaient sur eux, les suivaient longtemps. Parfois, c'étaient des seigneurs au visage émacié, parfois des officiers richement vêtus, la main à l'épée, un cheval cabré derrière eux.
Quand vous étiez jeune, vous n'aviez pas déjà des rêves, des pressentiments?
Non, j'étais seulement une petite fille solitaire, taciturne.
Alors, comment est-ce venu?
D'un seul coup, il n'y a pas très longtemps, j'ai senti que je n'étais pas chez moi, que je vivais chez un étranger. Vous savez, l'impression qu'on éprouve quand on se réveille et qu'on ne reconnaît plus la chambre.
Oui. Si j'étais sûr de ne pas vous fâcher, je vous poserais bien une question.
Je n'ai pas de secret.
Je peux?
Je vous en prie.
Est-ce que vous songez encore à disparaître?
Madeleine s'arrêta et leva les yeux sur Flavière, ses yeux qui avaient toujours l'air de supplier quelqu'un.
Vous n'avez pas compris.
Répondez-moi.
Un petit groupe de visiteurs était rassemblé devant un tableau. Flavière entrevit une croix, un corps blafard, la tête basculée sur l'épaule, un filet de sang sous le sein gauche. Un peu plus loin, un visage de femme se levait vers le ciel. Madeleine ne pesait pas plus qu'une ombre à son bras.
Non, n'insistez pas.
Si j'insiste, dans votre intérêt comme dans le mien.
Roger, je vous en supplie.
Elle avait à peine élevé la voix et pourtant Flavière fut bouleversée. Il passa le bras autour des épaules de Madeleine, l'attira contre lui.
Vous ne comprenez donc pas que je vous aime, que je ne veux pas vous perdre.
Ils marchaient comme deux automates, entre des Madones et des Pietà, parmi des Golgotha livides. Elle serra sa main longuement.
Et vous, Thomas Narcejac, comment avez-vous été amené à écrire cet essai sur le roman policier qui a abouti à votre rencontre avec Pierre Boileau?
N'ayant pas pu faire la carrière maritime que j'avais envisagée, je me suis tourné vers l'enseignement. Je suis devenu professeur. Et puis alors, la guerre est arrivée, qui a encore une fois tout remis en question. Mais à ce moment-là, je n'avais absolument jamais pensé à écrire. Et moi, j'ai eu la chance de ne pas être prisonnier, mais je dois dire qu'en revanche, j'ai travaillé terriblement parce que pendant la guerre, dans la zone sud, beaucoup d'établissements de la zone nord étaient repliés, les chaque lycée regorgeait d'élèves, chaque professeur avait énormément de travail. Et par hasard, à la fin de la guerre, à l'occasion d'un déménagement, je me suis trouvé pendant près de 3 mois sans livre, sans occupation, l'esprit absolument vide, avec cette espèce d'état de vacances si particulier créé par la fin même du conflit, par l'attente, pour ainsi dire, d'une existence nouvelle, j'étais totalement disponible. Alors, pour m'occuper, je me suis mis à feuilleter en imagination les livres que j'avais lus autrefois. Et je me suis dit, ça serait amusant, tiens, de faire des pastiches de ces auteurs, n'est-ce pas ? Alors, pour m'amuser, j'ai fait un premier pastiche. J'ai pris tant de plaisir à ce travail que j'en ai fait un second. Et je ne cessais pas de me poser des questions sur la méthode de ces auteurs. Je pastichais Sherlock Holmes, je me disais, mais voyons, comment Conan Doyle a-t-il été amené à inventer telle intrigue? Je remettais mes pas dans les pas de ces auteurs-là, et à mesure que j'abordais un nouvel auteur, je m'apercevais que la méthode n'était pas la même, que la forme de l'invention différait. Je me suis aperçu qu'au fond, le roman policier, bien qu'on puisse le considérer comme un genre mineur, pose tout de même les mêmes problèmes de création que les autres œuvres d'imagination. Par conséquent, j'ai été amené à écrire ce livre auquel Boileau faisait allusion tout à l'heure, que j'ai intitulé pompeusement « Esthétique du roman policier », et j'ai essayé de dire ce qu'était la nature même du mystère. Pourquoi y a-t-il des gens qui aiment le mystère? De quoi ce mystère est-il fait? J'ai cru m'apercevoir que le roman policier était destiné à exorciser justement certaines terreurs au lieu de les exalter, certaines émotions qui pouvaient être à base de peur, d'effroi ou même de terreur. Quand elles devenaient conscientes, elles étaient par la même sublimées. Et pour les sublimer, il fallait justement en passer par ce jeu de l'enquête policière qui, petit à petit, en démasquant un criminel, nous aider à nous débarrasser aussi de cette espèce de terreur qu'on éprouve en face du surhomme, l'homme invisible, l'homme qui est partout à la fois, n'est-ce pas? Car au fond, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'un assassin avec une majuscule? Et c'est tout ce qui peut rôder autour de nous et qui peut nous atteindre la nuit tombée. Comme j'avais beaucoup admiré Le repos de Bacchus, le livre de Pierre qui avait été couronné en 1938, j'avais naturellement analysé ce livre dans mon petit essai. Puis alors après, Pierre Boileau m'a écrit pour me dire son avis. C'est comme ça que tout a commencé.
Dans vos romans policiers, on a l'impression que l'assassin vous intéresse beaucoup moins que le milieu que vous décrivez, mais un milieu qui est un petit peu spécial, parce qu'il est en proie à la peur due au crime rôdant.
Nous nous sommes aperçus que dans les romans policiers d'avant la guerre, il y avait un personnage de trop, et que c'était le détective. Car le détective est un témoin qui n'est pas concerné. Il est rarement en danger, il domine toute l'action. Elle cesse d'être dramatique dans la mesure où elle devient pensée. Il y a quelque chose de trop cérébral là-dedans, n'est-ce pas? Si, au lieu de prendre le récit du point de vue de l'enquêteur, on le prend du point de vue de la future victime, qui est déjà en situation d'emblée. On récupère ce qui était si intéressant dans l'ancien roman policier, c'est-à-dire ce sentiment de la peur qui, convenablement traité, dosé, devient quelque chose de civilisé, si je puis dire. Nous nous sommes dit, on va s'emparer de ce sentiment, c'est un sentiment fondamental chez l'homme au même titre que beaucoup d'autres. On va traiter la peur et on va essayer de la poétiser, on va essayer d'en faire quelque chose qui devienne un objet de lecture extrêmement agréable, si possible. Enfin, c'était ça notre ambition. Alors voilà pourquoi on est parti, en effet, du milieu et de la victime. Et on a éliminé le policier dont on n'avait plus besoin.
Et en quoi consiste, d'après vous, la différence qui existe entre l'histoire d'un crime raconté dans un roman policier et celle d'un roman normal?
On pourrait dire que dans un roman tout court, s'il y a crime, le crime est presque le sujet du roman. Il y aura la progression qui amènera au crime, qui sera l'aboutissant du roman. Tandis que dans un roman policier, généralement, le crime n'est que le prétexte, n'est-ce pas? Puisque la règle du jeu veut que l'essentiel, c'est-à-dire les mobiles de l'assassin et l'assassin lui-même demeure ignoré jusqu'à la fin.
Prenez par exemple le crime de Kinette, le livre de Jules Romain. Kinette est un criminel à l'état pur. Ce criminel, par son caractère, par ses démarches, par ses rêveries, crée autour de lui, comme un cocon, son monde de criminel. C'est-à-dire que c'est lui qui engendre les événements dont finalement il sera la victime. Tandis que chez nous, si nous voulons aller plus loin dans l'illogique, dans le surprenant, dans l'anormal, enfin, n'est-ce pas, nous sommes obligés de prendre des événements qui est une autre dimension, qui s'engrènent d'une manière rare. On est donc obligé de penser l'intrigue à part. Et tout le problème, c'est de faire entrer nos personnages dans nos intrigues ou d'adapter nos intrigues à nos personnages, de telle sorte qu'à la lecture, on a l'impression de personnages qui habitent une sorte d'univers dont les lois ne sont pas tout à fait celles d'une autre. Il faudrait à la limite que tout nous choque, nous heurte, tout nous inquiète. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes dans le quotidien, et ce quotidien, justement, obéit à des lois un tout petit peu différentes, de sorte que c'est un monde où il y a du monstrueux à l'état latent. C'est ça qui est très très amusant pour nous, qui d'ailleurs nous pose des problèmes constants. Tout tient à l'accent, à l'intensité. C'est à l'oreille, n'est-ce pas? C'est une mécanique qu'on entend. Pour le faire, il faut évidemment que nous soyons absolument tous les deux sur la même longueur d'onde, n'est-ce pas? Il nous est arrivé très souvent d'avoir à distance, puisque Pierre habite Paris, moi j'habite Nantes, au même instant, la même idée de sauter sur le téléphone, dire, ah ben, tu sais, j'ai trouvé, ah ben moi je viens de trouver la même chose.
Et comment se réalise cette collaboration? Quel est l'apport matériel de l'un et de l'autre?
Au premier stade, on ne s'occupe pas encore tout à fait de ce que sont les personnages, mais simplement du rôle qu'ils devront jouer. Et c'est écrit par moi qui me charge de cette, en somme, on pourrait dire une première version. Et le second stade, et plus particulièrement celui de Narcejac, qui, à partir de cette première version, donne un corps, met de la chair et développe des personnages et des caractères qui ne l'étaient pas dans la version initiale. Il est bien évident que dans la première partie, il faut aller évidemment assez loin et assez fort, et ne pas s'encombrer de réserve, si vous voulez, ou de se dire, mais est-ce que tel personnage pourra faire ceci ou cela? Car si on se pose ces espèces d'interdictions au début, toute construction policière est à peu près impossible. Il faut construire dans l'absolu, n'est-ce pas, au début, n'est-ce pas? Enfin, avec un minimum de vraisemblance. Et ensuite, il est certain que Narcejac a beaucoup de mal, parce que dès que les personnages prennent une personnalité quelconque, évidemment, ils ne vont pas obéir comme des moutons à cette espèce de déterminisme que je leur ai imposé pour que ma mécanique tourne rond, n'est-ce pas? Et c'est ce qui nous arrive.
Voilà,
on pourrait dire une grande partie de notre travail, c'est une espèce de débat, je dirais plus de discussion, chacun défendant son os, si vous voulez. Moi, ma mécanique, et Narcejac, tout de même, ces personnages qui sont un peu des personnages de romans tout court.
Il faut penser également que ces romans sont faits pour la distraction de nos lecteurs. Et ils obéissent, si j'ose dire, à une sorte de cadence de lecture qui doit être gardée, qui ne doit pas être rompue. Un roman de 600 pages, on en lit le soir 50 pages, on en lit 200 pages dans le train, et c'est tout à fait différent. Un roman policier, en général, les gens le lisent d'un bout à l'autre. Et alors, parce que les gens lisent d'affilée, il faut en quelque sorte moduler cette lecture, les amener à lire à notre cadence. Il ne s'agit pas de savoir qui a fait le coup. Il s'agit vraiment de suivre un certain chemin à la cadence que nous jugeons la meilleure.
Je me suis pourtant demandé pour votre roman « Les visages de l'ombre » comment vous aviez pu, à deux, ressentir cette souffrance de l'aveugle aux prises avec les menaces d'un monde qui profite de son état.
Personnellement, j'avais fait un peu, je dois dire, et douloureusement, cette expérience, puisque j'ai perdu un œil quand j'étais jeune, et c'est ça justement qui a décidé de mon métier. Je sais malheureusement, d'instinct, enfin d'expérience, que c'est que de vivre avec la tête bandée. Enfin, j'avais un petit peu oublié, et j'en ai parlé à Pierre, qui lui-même, de son côté, a voulu se rendre compte. Vous savez, faites l'expérience, bandez-vous les yeux ou fermez-les, décidez de ne plus les ouvrir et déplacez-vous dans votre appartement, les catastrophes commencent au premier pas. Ça crée tout de suite une certaine angoisse, qu'autour d'un homme qui n'a plus que ses doigts pour vérifier ce qu'il éprouve, et qui par là même peut-être trompé très facilement, qu'autour de cet homme, l'expérience de son passé, tout se met à changer, qu'il soit dans un monde qui lui était familier, et dès qu'il le touche et qu'il l'explore, il ne le reconnaît plus tout à fait. Là, nous sommes véritablement au cœur de ce que nous voulons faire.
Et voici un extrait de ce roman de Boileau Narcejac, Les visages de l'ombre. Hermantier est un industriel qu'un accident vient de rendre aveugle. Le voici au moment du petit déjeuner.
Le déjeuner de monsieur est prêt.
Il n'y avait pas une heure de la journée qui ne fût pourrie, décidément. Autrefois, le petit déjeuner était une cérémonie dont il aimait le charme intime. Joie de respirer l'odeur du café, joie de beurrer le pain chaud, joie de déplier le journal du matin. Un coup d'œil au gros titre, un coup d'œil à la bourse, un autre aux faits divers. Le pain craquait sous la dent, le café était puissant, un peu gras. Ensuite, la cigarette, pendant que la vieille blanche apportait la gabardine, le chapeau, les gants. Oui, c'était ça la vie. Maintenant,
si monsieur veut bien s'asseoir.
Mais laissez ! Je suis tout de même capable de m'asseoir tout seul.
Hermantier trouvait les tartines à sa gauche, le sucrier à sa droite. Pour un peu, on lui nouait sa serviette au cou. Il baissa le nez sur sa tasse, mangea vite comme un enfant coupable, n'ayant plus qu'une idée. Sortir, se réfugier sur la véranda, où au moins, quand il était étendu sur sa chaise longue, il avait une apparence décente. Le soleil chauffait déjà fort. Les gouttes du tourniquet installé au bord de l'allée crépitaient d'instant en instant sur le ciment avec un bruit doux. Clément fendait du bois derrière la maison, sur la marche de l'office.
« Je devrais être bien »,
pensa Hermantier. Il palpa ses joues, son cou. Si seulement il avait pu, rien qu'une seconde, se voir dans une glace. Les doigts, même les plus déliés, ne peuvent apprécier l'affaissement de la chair autour de la bouche, à plus forte raison la décoloration maladive de la peau près du nez, ou au voisinage des pommettes. Il soupira, laissa pendre ses mains, puis d'un geste brusque, tâta son alliance. Elle ne jouait pas le long de la phalange. Au contraire, elle formait toujours la même dépression à la base de son annulaire robuste et velu. Pourtant, ce sont les mains, d'habitude, qui maigrissent les premières. D'habitude, oui. Les mains des autres, oui. Mais lui, était-il comme les autres? Vous revenez de loin, avait dit Lautier. Au diable, Lautier. Il s'installa aussi commodément que possible. Alors il entendit sur les carreaux de la véranda un grattement à peine perceptible. Cela s'éloignait, revenait, s'arrêtait. Dieu, la bonne surprise. Hermantier se dressa sur un coude, à plat.
Rita, c'est toi, Rita? Viens, ma belle.
Un miaulement pointu lui répondit.
Approche donc. Ce sont mes lunettes qui te font peur.
Il enleva ses lunettes. Il ne craignait pas de se montrer à la chatte. D'un bond, elle fut sur lui. Et tandis que son dos s'arquait sous les caresses, elle piétinait lentement, voluptueusement, le ventre d'Hermantier, poussant un râle léger et doux comme un roucoulement.
Toi aussi, mon pauvre lapin, tu as maigri. Quelle pauvre petite bête de misère.
Les mains nerveuses d'Hermantier pétrissaient la chatte, lui grattaient la nuque, lui couchaient les oreilles. Elle se laissa tomber sur le flanc, souleva sa cuisse pour laisser les doigts nerveux descendre vers ses mamelles, là où le poil devient un duvet soyeux qui cache à peine la peau moite.
Ma vieille Rita, tu as senti que j'étais là, hein? Je suis joli, oui. J'ai sans doute l'air d'un hibou, tu ne crois pas?
Il n'avait pas besoin de ses yeux pour voir Rita. Il savait qu'elle était blanche avec d'affreuses taches jaunes. Christiane l'appelait la rouquine. Pendant les vacances, elle quittait sa maison du bourg, une sorte d'épicerie buvette bureau de tabac située à près d'un kilomètre, et venait s'installer à la propriété, humble, obstinée, avide de caresses. Elle suivait Hermantier partout et jusqu'à la grève. Il l'aurait emporté à Lyon si Christiane n'avait pas détesté les bêtes.
Ma bonne Rita, mais tu n'as plus que la peau sur les os, ma parole.
Sa main tâtait l'échine grêle et saillante, la queue semblable à une corde à nœuds. Et soudain, il sursauta, faillit jeter la chatte sur le sol.
Marceline !
Il se cramponnait au montant de sa chaise, plein de dégoût, comme s'il eût découvert sur ses genoux une portée de vipère.
Voilà, monsieur.
Marceline, ce chat, là, sur moi, comment est-il ?
C'est une chatte, monsieur.
De quelle couleur ?
C'est une chatte grise.
Vous êtes sûr ?
Malgré son désarroi, il eut conscience qu'elle souriait de mépris. Mais cela lui était bien égal.
Grise, avec des taches ?
Non, monsieur.
Elle n'a pas de taches rouges ?
Non, monsieur. C'est une petite chatte, un peu angora.
Elle a la queue coupée, n'est-ce pas ?
Oui, monsieur.
Chassez-la.
Monsieur veut...
Chassez-la, tout de suite !
Il n'avait pu s'empêcher de crier. La bête effrayée sauta sur le sol et il entendit Marceline qui courait en frappant dans ses mains. Il eut de la peine à s'apaiser. Son cœur cognait à grands coups. Ainsi, n'importe quel chat... Il ne pouvait plus reconnaître. Il voulut se dresser et il eut l'impression que le mur était là, devant lui. Ce fut si intense qu'il leva son coude pour se protéger et retomba sur sa chaise longue. Marceline revenait.
Elle est partie. Monsieur a eu peur quand cette bête a sauté sur lui. Ce n'est jamais agréable quand on ne s'y attend pas.
Vous l'empêcherez de revenir. Je ne veux plus que cette chatte entre ici.
Il remit lentement ses lunettes. Ses doigts tremblaient encore un peu. Là-haut, le saxophone de Maxime se mit à jouer une phrase joyeuse. Et la maison se recomposa. La véranda, le salon, la salle à manger, la bibliothèque. De nouveau, Hermantier entendit crépiter les gouttes du tourniquet. L'absurde scène. Croire qu'on caresse un chat qu'on aime et tout à coup s'apercevoir que ce qui est là contre soi, c'est n'importe quoi. Du faux, de l'imitation, de l'illusion. Hermantier frotta longuement ses paumes sur les accoudoirs de la chaise. Cela lui faisait du bien de sentir que le bois était vraiment du bois, que les choses autour de lui n'avaient pas trahi.
Je crois que la plupart de vos romans ont été portés au cinéma. Est-ce que vous avez eu l'impression d'y retrouver ce que vous avez voulu y mettre ? Je pense au diabolique en particulier.
Il faut bien reconnaître qu'un metteur en scène apporte... et doit apporter sa propre vision. On ne peut pas dire qu'un metteur en scène se mette au service d'un auteur pour le traduire. Ça va beaucoup plus loin. Et si la vision du metteur en scène correspond, dans une certaine mesure, à la vision des auteurs, ça va. Par exemple, quand Hitchcock a fait Vertigo, eh bien, nous savons que Hitchcock et nous sentions à peu près de la même manière. Clouseau a un tempérament extraordinaire, sa vision des choses, il l'a apporté, il a fait de notre roman autre chose, mais autre chose de parfaitement intéressant et intelligent et qui va loin, et pourquoi est-ce que c'est un bon film? Ce qui serait regrettable, c'est qu'un metteur en scène prenne une de nos histoires et se contente d'en tirer le résumé. Ça ne se résume pas, puisque tout est justement dans le poids du mot, enfin.
À vos romans de mystère où il y a des assassins, vient de succéder un roman où il y a un espion, Maldon. Quelle différence faites-vous entre ces deux qualificatifs ?
Nos romans de mystère sont plutôt des romans de temps de paix, si je peux dire, n'est-ce pas ? Mais dans les temps de guerre froide, le roman d'espionnage est un roman tout de suite à la mode. On s'est dit, après tout, qu'est-ce qu'il y a ? Comment est-ce fait le roman d'espionnage ? On a fait un peu comme pour le roman policier, on s'est dit, qu'est-ce que c'est qu'un roman d'espionnage ? On en lit beaucoup, on en a étudié beaucoup, on s'est aperçu qu'au fond, et c'était souvent une recette. Et nous nous sommes dit, mais si l'espion, s'il est mal camouflé, tout est raté, c'est pas la peine d'en parler, il ne sait pas son métier. Et s'il est bien camouflé, c'est l'homme invisible. Comment parlait-on de l'homme invisible ? Bien, par les traces de son passage, bien, on sait que l'espion est là quand brusquement, dans la vie de gens comme vous et moi, des événements prennent une tournure insolite. Donc, c'est presque l'étude de la vie privée de ceux qui vivent autour d'un espion. C'est ça qui est intéressant.
Et voici le récit du premier contact d'un homme avec ce monde des hommes invisibles, ce monde des espions, extrait du roman de Boileau-Narcejac, Maldon. Voici d'abord cet homme, Jacques Christen, un violoniste raté, se décrivant lui-même.
Je ne vais pas raconter comment on descend la pente, les yeux ouverts, avec la claire conscience de ce qu'on a perdu. Je sus très vite qu'à moins d'un miracle, je n'arriverai même pas à me maintenir. Mon talent même me desservait. On aide un médiocre. Moi, on m'évitait. Je gênais. J'étais une cause de malaise. Et comme j'avais désespérément besoin d'argent, j'acceptais n'importe quelle proposition. Mais parce que j'avais perdu le droit d'être exigeant, on m'exploitait. Et c'était un cercle d'où je ne pouvais plus sortir. Et plus je m'enfonçais, plus j'étais seul. Je me mis à boire, évidemment. L'alcool, s'il achevait de détruire mon caractère, laissait intacte ma mémoire et ma main. Le virtuose s'acharnait à survivre, et bien souvent je m'étonnais moi-même. J'avais inventé une manière élégante de glisser rapidement sur les traits difficiles, d'escamoter leur aspect pédant ou trop mécanique. Je conservais un vibrato moelleux, discret, une sonorité royale qui exprimait, même quand j'avais la tête perdue, l'émotion la plus rare, sans une trace de facilité. C'était, au fond de moi, comme une source très pure que rien ne pouvait salir. Quelquefois, au bout d'une semaine, le gérant de la boîte où je jouais me prenait à part, me disait « C'est très bien, vous êtes certainement un bon violoniste, mais vous comprenez, ce n'est pas notre genre ici. » Je m'en allais. J'habitais des chambres de plus en plus sinistres. Je portais des costumes de plus en plus râpés. J'avais des maîtresses d'un soir qui murmuraient, après m'avoir entendu, « Eh ben toi, tu n'es pas un rigolo. » C'est que je voyais ce qui m'attendait. Lâcher le violon, j'avais essayé. Mais le violon m'avait rattrapé aussitôt. Donner des leçons pour vivre, j'étais incapable d'enseigner. On n'enseigne pas ce qui est instinct, présence de quelque chose. Peut-être aurais-je pu faire partie d'un ensemble. Il aurait fallu assister à des répétitions, supporter un chef. Non. J'avais déjà pris de telles habitudes de flânerie que je me serais senti en prison, dans une existence bien réglée. J'avais songé à composer, mais je n'avais pas assez de talent pour construire une œuvre, et la musique commerciale me rebutait. À quoi bon chercher des billets ? J'allais à la côte. Je ne gouvernais plus, et je n'éprouvais même plus le désir de gouverner. Ce n'est pas forcément désagréable d'être une épave. C'est alors que l'homme se manifesta pour la première fois.
Dans le bar où il joue du violon, Jacques Christen s'aperçoit qu'un homme vient régulièrement pour l'observer. Et un soir, cet homme l'aborde.
Jacques Christen.
C'était lui. Il me dominait de la tête et des épaules. Il avait des yeux gris, des yeux de joueur de poker. Il m'examinait comme si j'avais été une chose à acheter.
Vous avez encore bu.
Ah, mais permettez.
Venez.
Il m'entraîna vers une déesse noire dont il m'ouvrit la portière arrière et il s'assit près de moi.
Je n'ai pas l'intention de vous enlever, seulement de bavarder. Vous avez bien 5 minutes. Ensuite, nous irons rue des Abbesses. Vous prendrez votre violon et je vous ramènerai au Jumbo.
Il parlait lentement, avec un accent assez marqué. Il était probablement d'origine allemande. En tout cas, ce n'était sûrement pas l'amant jaloux auquel j'avais pensé.
Regardez ça,
dit-il en me tendant une photo. Je comprenais de moins en moins.
C'est moi ? Regardez mieux.
La photo n'était pas très bonne. Elle semblait avoir été décollée d'un document officiel, carte d'identité ou passeport, et conservait sur un angle la marque arrondie d'un cachet. Mais aucun doute n'était possible. C'est bien moi.
Je regrette. Vous, vous êtes Jacques Christen, né à Strasbourg le 22 janvier 1920. Premier prix de conservatoire en 1938. Et maintenant, chômeur, ou presque. Tandis que cette photo représente un certain Paul de Baer, né à Saverne, le 13 mars 1918. Comparez.
Il sortit de son portefeuille 2 photos où je me reconnus instantanément.
Je les ai prises dans la rue. Vous m'excuserez, mais votre ressemblance avec de Baer est telle qu'il faut une étude approfondie pour apercevoir la différence. Tenez, le lobe de l'oreille et cette ride, là, au coin gauche de la bouche.
Peut-être avait-il raison. Pour moi, j'étais fasciné par la photo de Paul de Baer. Elle était un peu floue, mais on aurait juré que de Baer était mon jumeau. C'est incroyable.
Cela paraît incroyable, en effet. Pourtant, de telles ressemblances sont plus fréquentes qu'on ne croit.
Il recula pour mieux m'observer.
De Baer était un peu moins maigre. Et puis, pardonnez-moi, il était très riche. Et la fortune marque aussi sûrement un homme que la pauvreté. Tel que vous êtes maintenant, vous ne ressemblez pas tellement à De Baer. C'est ça ? Et c'est autre chose.
Si je comprends bien, il est mort.
Oui. Et c'est justement pourquoi j'ai besoin de vous. Parlons sérieusement, Christen. Vous êtes fichu, vous le savez. Plus de crédit nulle part. Pas de travail en vue. Avec le costume que vous avez sur le dos, croyez-vous qu'on vous engagera encore? Et d'ailleurs, les violonistes, c'est fini. Vous joueriez du saxo, de la trompette, je ne dis pas, il vous resterait une petite chance.
J'essayais de protester. Il m'imposa le silence.
Je suis renseigné. Vous êtes au bout du rouleau. Moi, je peux vous tirer d'affaire. Voyons, si je vous donnais 1 million cash, pour commencer, bien entendu, est-ce que vous accepteriez de travailler pour moi?
Et pour bien me montrer que son offre était sérieuse, il se fouilla, tira de sa poche un carnet de chèques. 1 million. J'avoue que sur le moment, le chiffre me fit mal. Je passai mes 2 mains à plat sur mes yeux, sur mes joues. J'aurais tellement voulu me réveiller, comprendre.
Je dis, travailler, ce n'est pas exact. En fait, je vous loue, vous. Votre visage, votre corps. Je loue votre ressemblance, si vous préférez. Et je tiens à vous rassurer tout de suite. Il ne s'agit pas de vous compromettre dans une affaire louche. Vous allez voir, c'est très simple.
Vous disiez qu'une des qualités du roman policier était de rendre inoffensif tout le mal que peut cacher un mystère, en le démontant et en l'étalant devant nous. Je crois qu'à cette qualité, vous en avez joint une autre, qui est celle de nous permettre d'aborder d'autres mystères, de plus grands mystères.
L'impression de l'inexplicable est évidemment un supplice pour des gens qui sont doués de raison. Alors on aime mieux expliquer coûte que coûte, même s'il y a un résidu qui résiste, que de ne pas expliquer du tout. De sorte que pour nous, l'explication rationnelle, c'est une porte de sortie un peu fausse, mais elle est nécessaire quand même. La véritable explication, on peut penser qu'elle est ailleurs, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose qui, peut-être effectivement, dépasse dans le monde la capacité de la raison humaine. Et c'est vrai, nous l'avons toujours ressenti, seulement ça passe ou ça plus ou moins bien dans le récit, on ne sait jamais, et c'est un peu donné par surcroît. Si ça passe, c'est qu'on a eu de la chance. Mais je crois que c'est nécessaire. Il faut toujours qu'il y ait, non pas deux solutions, mais une explication possible et autre chose.
Un prolongement d'inquiétude.
Un prolongement d'inquiétude.
Les plaisirs du jour sont dans la matinée. Cette émission que vous venez d'entendre a été réalisée et imaginée par José Pivin, qui vous a présenté aujourd'hui Pierre Boileau et Thomas Narcejac. Des extraits des romans de Pierre Boileau et Thomas Narcejac, Les Magiciennes, Sueur Froide, Les Visages de l'Ombre, Maldonne, étaient interprétés par Caroline Alexandre, Michel Gérard, Michel Bouquet, Ivar Canel, Jacques Bretonnière, Maurice Juniot, Georges Pérou, Olivier Richard, Richard Pau, René Clermont et Clément Béram. Prise de son Robert Lavoignat, assistante de production Yvonne Taquet.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 2 Régionale le 23 juin 1962. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.